Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 21e épisode de JT Sport, votre rendez-vous hebdomadaire présenté par les élèves de l'école de journalisme de Toulouse. Au programme aujourd'hui, un retour sur le tournoi de football des écoles de journalisme qui avait lieu ce samedi à Lille. Reportage ensuite sur l'arrivée de la Coupe du Monde de rugby à Toulouse. On vous racontera en bref l'actualité nationale, internationale et régionale. Et pour finir en douceur, un petit quiz.
Le Stade Toulousain est le nouveau champion de France.
La deuxième place pour Yoann Carré.
C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant.
Joueurs et supporters se sont envolés vendredi soir direction Lille pour remporter le Fiège 2023. Alexandre et Margot étaient sur place pour nous raconter l'événement.
On est à quelques minutes du coup d'envoi de votre premier match, qu'est-ce que vous pensez là?
Bah écoutez, l'ambiance est bonne, il pleut, normal, on est à Lille, mais c'est pas grave, on va tout donner.
Côté filles, le résultat du match contre Lannion n'est pas celui espéré. Une défaite 2-0 face à l'IUT Breton.
De toute façon, on savait que Lannion, ça allait être des concurrentes compliquées. Moi, je trouve qu'on a très bien joué, on est soudés. Et de toute façon, on va essayer de gagner les autres matchs. Rien n'est perdu, on y croit encore.
Mais côté garçon, c'est une victoire.
Le tournoi bien lancé avec cette victoire, 1-0. Très important de commencer par une victoire.
Après, ça ressemble beaucoup à la physionomie de l'année dernière et on n'a pas envie que ça se repasse pareil.
Et les garçons ne s'arrêtent pas là. Ils remportent tous leurs matchs de poule face à Lannion, l'IFP et le QEJ. Contre l'école de Strasbourg, Benjamin et Pierre ont marqué deux magnifiques buts. Les garçons sont qualifiés pour les quarts.
But exceptionnel. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous le raconter?
Début deuxième mi-temps, je sens que les organismes sont fatigués des deux côtés. J'ai une balle au milieu de terrain, j'en passe deux, avec ma vitesse. Et après, le rebond est favorable à l'entrée de la surface, tir lucarne. On est qualifié pour les quarts.
Une frappe dont je n'ai pas l'habitude, vraiment ça me change un peu. Mais il faut surtout saluer le travail de la board au milieu de terrain, qui donne 4 joueurs qui me l'a fait, et après je tente ma chance. Et ça finit au fond, donc c'est parfait.
En revanche, les filles, elles, n'ont pas réussi à sortir de la poule. Au compteur, aucun but et une blessée.
Avec un match nul quand même contre l'IFP, on s'est bien battu, bien défendu, surtout en défense. C'est vrai qu'on était solide. Ensuite, on a joué contre le QEJ. Bon, malheureusement, égalité aussi, mais elles étaient quand même plus fortes que nous. On a tout donné.
Par contre, cette matinée a été marquée par un incident, c'est la blessure notamment de Charlotte qui est sortie sur brancard.
C'est l'heure du quart de finale pour le JTFC. À la fin du match, le score est de 0-0, direction les tirs au but. Bonne nouvelle pour l'IPJ qui a pour seul point fort son gardien. Nos violets ratent le but à deux reprises, le match laisse un goût amer.
Le match est compliqué dans le sens où on jouait contre une équipe qui défendait quasiment à 6, quoi, et qui a laissé qu'un attaquant devant. On le savait que c'était un risque. On avait gagné nos 3 premiers matchs, les équipes ont commencé à avoir un peu peur de nous. Là, ça n'a pas tourné pour nous, ça fait vraiment chier. Mais c'est comme ça.
Cette séance de tir au but à ce niveau-là, on n'est pas sûr de la loterie, mais quasiment. C'est cruel et je suis déçu.
On a montré qu'on pouvait faire de belles choses. C'est sûr que peu importe où ce sera en 2024, on aura vraiment, comme tu disais, le couteau entre les dents, l'envie de gagner et de ramener ce putain de tufus. Hein. C'était l'objectif aujourd'hui. Là, on découvrait aussi, surtout pour les premières années, le tournoi. L'année prochaine, il n'y aura plus d'excuses. Hein.
Pourtant, les supporters ont tout donné en oubliant même leur voix à Lille.
Le problème, c'est qu'on s'est cassé la voix. On n'a pas gagné le prix de l'ambiance, malheureusement. Mais on remet ça l'année prochaine.
Et on espère qu'Alexandre aura retrouvé sa voix d'ici l'année prochaine. Le rendez-vous est pris en terre grenobloise. Tristan, cette semaine, c'est toi qui reviens sur les résultats de nos équipes occitanes. Et on commence avec un immense exploit pour un Toulousain.
Vendredi dernier, Aurélien Sanchez a remporté la Barclay, un ultra-trail considéré comme l'un des plus difficiles au monde. Il devient le premier Français à terminer la course. Depuis 1985, ils ne sont que 17 à avoir avalé les 200 km et 20 000 mètres de dénivelé positif en moins de 60 heures. Et tout ça sans aucune assistance. Aurélien Sanchez rejoint ainsi le cercle très fermé de ceux qu'on appelle les finishers.
Pourtant, le week-end a été plutôt morose pour les clubs de la Ville Rose. Le TFC s'est d'ailleurs incliné 2-0 à domicile face au LOSC de Paolo Fonseca.
Dominés en première mi-temps, les Violets ont finalement craqué dans les dernières minutes du match. Alessandro a ouvert le score d'une tête piquée à la 85e minute, avant que Mohamed Bayou enterre définitivement les espoirs toulousains après 11 minutes de temps additionnel. Le match a été marqué par une interruption de près de 15 minutes en première mi-temps à cause de la pluie et des grêlons. Toulouse voit ainsi Montpellier lui passer devant et se retrouve 12e.
En handball, Toulouse n'a pas su réitérer l'exploit face à l'ogre parisien.
Vainqueur surprise 35-27 à l'aller, le Phénix n'a cette fois-ci pas fait le poids. Il s'est incliné 38-26 et enregistre là sa plus lourde défaite de la saison. Cinquième au classement, les Toulousains vont devoir hausser leur niveau de jeu dimanche prochain pour espérer obtenir un résultat face à Nantes.
Les Spacers ont longtemps cru à la victoire contre Nice.
Devant 2-7-1 après les 3 premiers sets, les Spacers se sont finalement inclinés après un cinquième set décisif. Une contre-performance face à un mal classé qui coûte cher, les Toulousains disent officiellement au revoir à la 9e et 10e place de la Ligue A et donc au play-off de Coupe d'Europe.
Il y a du mieux pour les filles du TMB qui ont longtemps accroché le leader lyonnais et ont montré de belles choses.
Les filles de Xavier Noguera s'inclinent malgré tout 70-83 et enchaînent une 15e défaite consécutive. Les Toulousaines devront donc passer par les play-downs pour espérer se maintenir dans l'élite française, mais l'espoir est permis au vu de la prestation du week-end.
Seule éclaircie dans le ciel toulousain donc, la victoire du Toulouse Olympique sur la pelouse des Widnes Vikings.
Le Théo s'est fait peur, mais finalement il a arraché la victoire dans les dernières minutes du match grâce à un essai de Paul Marcon. Toulouse s'impose finalement 14-12 et conserve sa 2e place au classement. L'objectif remonté en Super League reste donc d'actualité.
Mesdames, messieurs, prosternez-vous.
C'est bien fait.
Extraordinaire. Extraordinaire, ma bien joué.
Vas-y, mon petit.
Mon objectif prochain, c'est de tout soulever.
La Coupe du Monde de rugby approche à grands pas. Entre match au stadium et joueurs toulousains dans l'effectif français, la Villerose sera au cœur de la compétition. Et les Toulousains attendent justement cet événement de pied ferme. Paul Grelier et Corentin Mogg sont allés à leur rencontre.
Peu avant midi, le marché Victor Hugo de Toulouse bat son plein. Entre plateaux de fruits de mer et planches de charcuterie, les habitants du quartier commencent à sentir un certain engouement à 171 jours du début de la Coupe du Monde. C'est le cas de Rémi et Christian.
J'ai vu les installations, notamment à Jean Jaurès pour annoncer, c'est ça qui m'a mis au courant.
Pleine de petits villages où il y a des petits clubs, donc je pense qu'il y aura du monde.
Pour bon nombre d'entre eux, les Bleus doivent aller chercher ce titre de champion du monde. Ne pas remporter la Coupe Webelis serait une vraie déception.
Bah, il faut essayer de la gagner. Hein. Je crois que quand on joue à domicile, il faut essayer de gagner la Coupe du Monde. La dernière fois, en 2007, on avait les moyens, on est passé un petit peu à côté.
Demi-finale au moins, puis après, voilà, finale, en espérant.
Les joueurs toulousains, fortement présents dans l'effectif de Fabien Galthié, ont une place particulière dans le cœur des Occitans. Qu'il soit suiveur assidu ou simple admirateur.
C'est qui tes joueurs préférés dans le 15
Delib, Dupont et Jaminet.
À votre avis, un Toulousain? Dupont?
Oui, comme beaucoup de personnes, Dupont, je crois.
Alors, Ntamak, il a une bonne tête et je crois qu'il tape bien du pied, mais c'est à peu près tout ce que je sais.
Le premier match qui aura lieu au Stadium de Toulouse se jouera le dimanche 10 septembre. Les Japonais, quart de finaliste de la dernière édition, affronteront le Chili.
Pour rappel, la Coupe du Monde 2023 aura lieu du 8 septembre au 28 octobre. Ce week-end a été très chargé en compétition sportive. Thomas, tu voulais nous raconter ce qu'il s'est passé, en commençant par le tournoi Destination.
En effet, Emilien, cinquième et dernière journée du tournoi, qui a vu notamment l'Irlande s'imposer face à l'Angleterre 29-15, ce qui lui permet de réaliser le Grand Chelem. Le CAS de France, quant à lui, a déroulé à domicile face au Pays de Galles 41-28 et termine à la 2e place du classement. Un tournoi marqué par la contre-performance de l'Angleterre, qui finit seulement 4e. Le tournoi Destination était la dernière répétition de taille avant la Coupe du Monde en septembre.
Du ballon ovale au ballon rond, il n'y a qu'un pas. Ce week-end avait lieu la 28e journée de Ligue 1 ainsi que le Classico en Espagne.
Une journée marquée par la défaite du PSG à domicile face à Rennes 2-0, une première depuis 2021. Dans les autres résultats, Marseille reprend la 2e place après sa victoire à Reims et Montpellier continue sa montée vers le top 10 après sa victoire contre Clermont. Mais c'était bien en Espagne qu'on retrouvait la grande affiche entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Au terme du match, les Blaugrana s'imposent 2-1 grâce à Sergi Roberto et Franck Kessié, faisant un grand pas vers le titre.
La Coupe du Monde de biathlon s'est achevée hier à Oslo Holmenkollen. Et chez les femmes, la France a fait main basse sur la compétition avec Julia Simon.
Fin de saison en beauté pour la Française de 26 ans. Après le classement général de la Coupe du Monde de samedi, Julia Simon a également remporté le petit globe de cristal grâce à sa 5e place lors de la Mass Start. Le biathlon féminin français rayonne de nouveau, 18 ans après le sacre de Sandrine Bailly. A noter également la 3e place d'Anaïs Chevalier-Boucher, qui tire sa révérence à l'issue de cette Coupe du Monde. Chez les hommes, Johannes Bö parachève sa domination sans partage, avec une double victoire sur la poursuite et la Mass Start.
Et pour terminer, la Formule 1 avec le 2e Grand Prix de la saison.
On reste dans le golf avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah. Si Red Bull avait dominé les débats à Bahreïn, l'écurie remet le couvert avec un nouveau doublé. Sergio Pérez s'impose devant Max Verstappen et Fernando Alonso. Côté Alpine, les Français assurent et rassurent avec la 8e et 9e place d'Esteban Ocon et Pierre Gasly. Prochain rendez-vous dans 2 semaines en Australie pour la 3e manche du championnat sur le circuit d'Albert Park.
On passe désormais au quiz, et c'est toi Hugo qui t'en es chargé cette semaine.
Oui, bonjour à tous, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez me retrouver ce joueur de foot passé par le TEF avec son parcours? Alors, il a fait Degerfors, Orgrit, Malmö, le PSV Eindhoven, le Stade Rennais, Sunderland...
Elmander?
Non, Toulouse, Melbourne, et il est reparti à Malmö.
Est-ce que ce serait pas Toivonen?
Oui, c'est bien ça. Ouais. Donc effectivement, c'est bien le géant Ola Toivonen, auteur de 15 buts en 64 matchs en sélection suédoise. Maintenant, il évolue au pays, dans le club de Malmö, où il a inscrit cette saison 3 buts en 11 matchs. Alors, deuxième question. Deux athlètes français d'une même discipline ont presque conjointement annoncé leur retraite. Pouvez-vous me les citer?
Alors là, Tessa Orlé et Anaïs Chevalier-Boucher?
Non, t'en as une, c'est Tessa Orlé. Et c'est un homme qu'on cherche.
Qui est aussi en ski.
Oui, exactement.
Johan Claret ?
Exactement, c'est Johan Claret. Alors, Tessa Worley l'a annoncé hier. Johan Claret a disputé sa dernière course mercredi. La France perd deux très grands athlètes. Pardon. Pour rappel, Tessa Worley a 32 ans et double championne du monde. Johan Claret, 41 ans, est médaillé d'argent aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Et alors, peut-être une petite dernière question.
Allez, c'est parti.
Quel joueur a annoncé « J'y ai toujours cru » ?
C'est juste ça ?
Juste ça. Je
vous mettrai c'est un peu quelqu'un qui voulait être en sélection, non ?
Exactement, c'est un bleu qui vient de l'annoncer.
Il vient de l'être, du coup.
Oui.
Todibo, ouais ?
Non.
C'est l'autre, alors ?
Ah, mais oui,
Dizazi.
C'est Brice.
C'est Brice Samba, exactement. Samba, c'est pas Dizazi. Donc, Brice Samba, le gardien lensois formé au Havre et passé par Marseille et Nottingham, a annoncé à l'équipe qui, il y a 4 ans, aurait pu se dire il va aller en équipe de France, lui. Ça peut paraître fou, mais moi, j'y ai toujours cru.
Allez, en tout cas, merci beaucoup Hugo pour ce quiz. Merci à Louis et Clément en régie et merci à tous pour avoir participé. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le 22e épisode.